Salut, mon nom est Camille et je suis une conseillère dynamique et polyvalente.
Si Camille n'a pas mentionné qu'elle est dyslexique, c'est que ça n'a aucune incidence sur son emploi. Ne laissez pas un handicap vous définir. Joignez-vous à la fonction publique. Travailler pour le Québec, plus qu'une carrière. Un message du gouvernement du Québec.
Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour La Cabane à Conte, l'émission où on vous raconte des histoires.
Pour un voyage musical dans les années 80, je vous invite à écouter Spraynet et Spandex où je vous fais découvrir des chansons méconnues mais néanmoins excellentes. Spraynet et Spandex avec Isabelle, les mardis après-midi de 4 à 6, en rappel les samedis soirs de 9 à 11 sur CIBL 101.5.
Ici Chantal Giraudet, animatrice de l'émission Au cœur de la famille qui se tient tous les mercredis à 19h sur les ondes de CIBL au 101,5 FM. Bonsoir, chers auditeurs. C'est un grand plaisir de vous accueillir toujours les mercredis soirs. Et ce soir, le thème qui est annoncé, c'est comment surmonter une épreuve telle que le deuil d'un bébé en cours de gestation. Ouf! Et on sait que ce n'est pas un sujet qui est facile aussi. Et puis, écoutez, j'ai ici une invitée, une dame très brave, courageuse, que je connais, ça faisait un petit bout qu'on ne s'était pas vus, Mélanie et moi, mais elle s'appelle Mélanie Fichaud. Et vraiment, ce soir, de se présenter ici en studio, moi, je trouve qu'elle fait preuve d'un grand courage et elle a fait preuve aussi d'une grande résilience ces dernières années. Elle va nous en parler dans quelques minutes et on aura toute l'émission avec elle pour qu'elle puisse voir comment on s'en sort d'une épreuve aussi grande que celle-là. Et naturellement, ça ne minimise pas la douleur qu'elle a ressentie tout au long de cette épreuve du deuil périnatal. Et il y a aussi son conjoint qui a passé également à travers cette même épreuve. Donc, ce n'est pas facile non plus pour le conjoint, on le sait. Et ce soir, il n'est pas là parce qu'il est en voyage d'affaires, m'a-t-elle dit, hors d'onde. Mais écoutez, on accueille Mélanie à bras ouverts et... Naturellement, on a aussi, au sein de cette émission, Mélanie et moi, une douce pensée pour toutes ces femmes qui ont eu des fausses couches aussi. C'est pas facile aussi. Il y a une tonne de femmes qui vivent des fausses couches. Puis souvent, ces femmes-là, dans leur entourage, là, ben, leur entourage, en fait, motive cette perte-là en disant que l'enfant n'était pas nécessairement appelé à naître et tout ça. Mais de toute manière... Peu importe les motifs qui sont établis, non établis, pertinents, non pertinents, rationnels, non rationnels, et j'en pense, là, il ne reste pas moins que le deuil périnatal, il y a quelque chose de très particulier dans cette épreuve-là. Et on le sait, cette épreuve est différente d'un deuil où la personne est arrivée sur Terre hein, à titre d'être humain et que cette personne-là a eu des souvenirs qui se sont créés. Les souvenirs sont différents, sont maman avec son enfant, son fœtus intra-utérin. Donc, c'est un petit peu pas mal différent. Et ça a cette particularité-là. Et il y a aussi que parfois, ces femmes vivent le deuil dans leur couple, avec leur entourage et tout. Et certaines femmes décident de le garder pour elles-mêmes parce que, bon, c'est déjà très difficile de vivre cela. Et le deuil périnatal, on le sait souvent, il est mal compris, il est mal interprété. Il fait souvent l'objet de fausses croyances. Il y a des gens qui sont portés à croire que c'est plus facile, comme je disais tantôt, de vivre le deuil d'un enfant qui n'est pas venu au monde. C'est tout à fait faux. C'est très différent là, quand on parle avec des femmes qui ont vécu cette expérience. Mélanie va nous en parler, elle, comment elle a vécu ça. Il y a aussi les personnes, en fait, qui sont portées à croire que ces femmes-là auraient dû faire ceci ou cela, donc sont plus dans des perceptions ou des scénarios X, Y, Z. Donc, et on le sait, vivre un deuil, c'est très personnel, c'est-à-dire que chaque personne vit le deuil à sa manière, dans un contexte qui est vraiment particulier et unique. Et voilà, je pense qu'on a la table mise pour accueillir notre invité. Et je veux quand même, d'entrée de jeu, je ne sais pas comment l'émission... Vous savez, moi, aujourd'hui, je m'en venais là, à la radio, puis sur Saint-Laurent, Sainte-Catherine, puis je m'en venais au studio, puis j'avais comme un petit peu... C'est rare là, que j'ai ça avant une émission, mais là, j'avais comme une petite boule au ventre parce que je pensais à Mélanie, puis je me disais, ouf, comment va sortir l'émission? C'est pas toujours évident, mais comme j'ai dit à Mélanie, si il y a des émotions X, Y, Z à sortir ce soir, tu te laisses aller, puis il n'y a pas de problème. Ça fait tout de même 5 ans là, qu'elle m'a dit qu'elle a passé cette épreuve avec son conjoint. Et, mais on le sait, ça peut ne pas être évident à vivre. Alors... Moi, je vous dis, on va prendre quelques secondes, le temps que je puisse l'accueillir au micro. Et je voulais aussi vous dire que ce soir m'accompagne en mise en onde David Boisjoli-Moreau. Et la semaine passée et l'autre semaine d'avant, vous savez, j'oublie des fois parce qu'on arrive vraiment plus serré dans l'émission. Et là, je me disais ce soir, il ne faut pas que j'oublie. Et David Boisjoli-Moreau, notre metteur en onde. Alors, merci David d'être avec moi, de m'accompagner. Sans toi, il n'y a pas d'émission. Ce n'est pas possible parce que je ne peux pas faire les deux choses à la fois. Alors, on se retrouve dans quelques secondes pour accueillir mon invité et on sera bien content, à bras ouverts, de l'accueillir. Alors, bonsoir, Mélanie. Merci d'être venue ce soir. Ça te prend un grand courage pour venir, finalement, passer à la radio pour parler de ton épreuve, parce que ce n'est pas une mince épreuve. Bonsoir.
Bonsoir. Ça va bien?
Oui, ça va super bien. Je suis contente, comme je disais tantôt à mes auditeurs, c'est pas évident, hein, parce que quand on accueille, naturellement, d'habitude, j'ai des invités, puis on parle de contenu. Mais là, celui-là, il est un petit peu plus délicat, donc... Je vais être capable de bien faire les choses, puis t'accueillir, puis en même temps accueillir comment tu te sens aussi face à tout ça. Donc, alors Mélanie, écoute, je voulais que tu nous parles de ton expérience, là, dans tes propres mots, là, comment ça a été? Est-ce que tu peux nous mettre un petit peu en contexte, là, comment tu l'as vécu? Parce que c'est tellement différent de femme en femme qui ont vécu la même expérience que toi. Et en même temps aussi, j'aimerais ça que tu me parles, tu sais, durant la grossesse, là, t'avais des espoirs, t'avais des rêves, donc toute cette partie-là. L'étape de comment tu l'as su, comment vous avez passé au travers?
Bien, tout d'abord, je voulais juste prendre le temps de te remercier de pouvoir me donner une tribune pour pouvoir parler de ce deuil-là qui est quand même assez commun chez les femmes. Mm-hmm. On en entend de plus en plus parler.
Ouais.
Donc, pour répondre à ta question, parler de mon expérience, c'est sûr que c'est propre à chacune. Comment on vit le deuil périnatal. Mm-hmm. Mais dans mon cas, à moi, c'est sûr que je voulais fonder ma famille, je voulais avoir des enfants, j'avais enfin trouvé le conjoint, chaussures à mon pied.
Mm-hmm. C'est toujours le même conjoint aussi.
Toujours le même conjoint, oui. Depuis 8 ans maintenant. Mm-hmm. Je salue d'ailleurs Jean-Sébastien ce soir.
Oui, Jean-Sébastien Larivière, si tu permets que je...
Oui, tout à fait. Donc, pour un peu mettre la table, en fait, nous, on a eu... j'ai eu 3 grossesses. Donc, la première grossesse qu'on a eue ensemble, on a eu jusqu'à 13 semaines. Donc, on a eu le cœur, on a entendu le cœur du bébé battre. Et quand j'ai été chez mon premier rendez-vous chez ma gynécologue, j'étais super stressée. C'est une première grossesse. Je suis comme enjouée, mais tu sais... Et là, quand elle met... c'est comme un applicateur qu'elle met sur ton ventre pour faire mm-hmm. l'échographie.
Il y a un petit gel et puis...
Elle arrête de parler. Elle me regarde, pas sûre. Et là, il y a
Un
malaise qui s'installe en dedans de moi. Puis je lui demande, qu'est-ce qui se passe? Attends, Mélanie, juste un petit 30 secondes. Attends une minute. Panique pas. Elle continue. Sort de la pièce, va voir un autre médecin pour confirmer. On n'entendait plus le cœur du bébé battre. Alors, ça a été une première fois pour moi un choc.
Oui.
Ça a été vraiment difficile. Mon conjoint n'était pas là, il était parti à Québec. Donc, j'étais dans la salle d'attente, il était sur le chemin du retour. Et j'appelle mon conjoint et je lui dis le cœur du bébé a arrêté de battre. Je suis à la clinique, je suis en état de choc.
Ah oui.
Je suis pas capable de conduire, il faut que tu viennes me chercher. J'étais en pleurs, j'étais dans toutes mes émotions. Fait que c'était la première fois où ce que j'ai perdu mon bébé que je l'ai appris de cette façon-là.
Ça, ça devait pas être facile quand... Là, j'imagine, je suis en train de voir la scène. Je suis en train de m'imaginer toi qui es là.
Ouais.
Et là, tu voyais qu'elle avait des questionnements dans ses yeux. Et là, tu t'es en train de dire... Là, en passant, là, savez-vous quoi? Je suis en train de penser à quelque chose. Je pense, parce que moi, j'ai un cœur sur la main, comme Mélanie aussi. Je suis en train de penser que si jamais... vous êtes en train d'écouter l'émission puis que vous essayez d'avoir des enfants ou vous avez un bébé dans le ventre, peut-être qu'on pourrait se donner rendez-vous la semaine prochaine. Je pense pas que ça soit super pour ces auditrices-là qui regardent ça. On passe à la semaine prochaine parce que je suis en train j'ai un petit peu d'empathie pour les mamans là, qui ont un bébé dans le ventre. Là. C'est peut-être pas une bonne idée d'écouter cette émission-là. Par contre, pour les autres, vous êtes les bienvenus. Alors, mais Mélanie, c'est ça. Donc là, si tu remets en contexte, tu es dans une clinique, n'est-ce pas?
Exactement, puis là, tu es en train
de penser, vous savez...
Exactement. Et ça, ça a été ma première expérience grossesse. Et là, ben, c'est sûr qu'il y a eu un certain deuil, une certaine étape. Et
bien, c'est déjà très gros.
Et là, on dit toujours qu'il faut attendre 6 mois avant de s'essayer pour un deuxième bébé, le temps que le corps se replace et tout ça, puis en même temps, le mental
ben
aussi.
Oui. Parce que ça, c'est comme important, tout à fait, pour ne pas recréer...
Exactement, mais on réembarque tout de suite. On dit, bon, OK, c'est arrivé, pas de chance. Bon, on fait confiance à la vie.
Mm-hmm.
Tombe une deuxième fois enceinte. Et là, mon conjoint, lui, il est vraiment dans la deuxième grossesse. Il est dedans, puis la deuxième, c'est la bonne. Mais moi, je me garde une réserve par rapport à la deuxième grossesse. Parce que c'est sûr que, de ma première expérience, j'ai peur que ça arrive une deuxième fois.
Mm-hmm. Ce qui est tout à fait normal, oui, je comprends.
Exactement. Alors, à 7 semaines, je perds à nouveau le bébé.
OK. Et là, c'était une fausse couche dans ta salle
une
de bain?
Une fausse couche. Non, en fait, c'est que quand je suis allée à l'échographie, c'était terminé. Donc, le bébé se faisait déjà une semaine qui était plus viable. Et puis, des fois, ben, dans le milieu de la médecine, c'est un peu difficile. Ça a pris une semaine avant que je puisse l'enlever de mon ventre, ce bébé-là.
OK.
Alors, tu sais, t'es avec ton bébé qui est en dedans de toi, mais tu sais, il faut que t'attendes une semaine.
Ouais.
Là.
Oh, mon Dieu,
c'est quand même assez difficile. C'est pas évident.
Oui.
Alors, donc, encore...
une deuxième fois.
Deuxième fois. Donc, jamais 203. Fait qu'on se dit, bien, Colin, la prochaine, c'est la bonne. Tous les espoirs. Puis on se dit, bien, c'est la troisième, c'est celle-là. Oui. Alors, puis moi, entre-temps, avec la gynécologue, je lui explique que j'ai une grossesse à risque, évidemment. J'ai 38 ans.
Mm-hmm.
Et là, la première fois, je tombe enceinte à 38. La deuxième à 40. Et la troisième fois à 41. Donc... je suis quand même une grossesse à risque.
Mmh. Et là, les médecins te suivaient, Mélanie. Là,
me suivait, mais il a fallu que je lui dise, là, j'ai une grossesse à risque. Vous allez me suivre vraiment très, très rapprochement, de façon rapprochée. Puis aussi, j'ai entendu parler des aspirines de bébé et aussi comme quoi que je manque de progestérone, donc ça va me prendre peut-être de la progestérone.
Mmh.
Et ça, ce que ça fait, c'est que ça clarifie le sang pour que le cordon ombilical puisse emmener la nourriture plus facilement à l'enfant. Et la progestérone, c'est que quand tu manques d'hormones, c'est pour aider au développement de ton enfant,
les hormones, tout à fait.
Alors, évidemment, ma médecin me prescrit ça, tout ça. Donc, je fais exactement ce que je dois faire. Et là, finalement, il y a tout un choc qui vient avec
Je m'excuse, je voulais juste... je ne veux pas t'interrompre, Mélanie, mais est-ce qu'il a fallu que tu attendes un autre 6 mois?
J'ai attendu un autre 6 mois.
OK, donc il fallait que même l'autre aussi, que tu attendes un 6 mois, toujours.
Oui, toujours un 6 mois, le temps que ton... Il y en a qui vont recommencer rapidement, mais moi, dans mon cas, j'aimais mieux attendre 6 mois, le temps que le mental, le temps que mon corps se replace, avoir une coupe de cycle qui est passé, comme quoi que tout est à sa place, tout est correct pour donner le plus de chances. Et aussi, je suis allée débloquer les trompes de Fallope, comme on dit. Il y a un terme à ça, mais je m'excuse, je l'ai perdu.
Okay. Puis moi, je ne suis pas médecin, je ne peux pas
t'aider. Non, c'est ça. Alors, fait que, et ça l'a énormément aidé.
Okay.
Et le 1er octobre, je fais un test de grossesse et je sais que je tombe enceinte.
Et là, tu as 40 ans.
Et là, j'ai 41 ans.
Parfait. Donc, deux fausses couches Oui. Et là, la troisième.
La troisième.
Là, ton conjoint et toi, Jean-Sébastien, oui, et toi, vous dites là, c'est la bonne
c'est
fois.
La bonne.
Et là, vous restez c'est optimiste, mais ça, vous êtes fort, là, parce que... Oui. Puis c'est génial, parce que là, vous êtes resté dans toute cette... Bon, on sait qu'est-ce qui arrive après, malheureusement, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes resté quand même dans la beauté.
L'espoir.
De dire, ben, l'espoir. Le rêve de s'accrocher. Puis ça, oui, c'est fort, puis c'est beau de votre couple.
Vraiment, vraiment, oui, là, j'ai tout un homme à mes côtés.
Ah, oh, ouais.
J'apprends que je suis enceinte, je suis tellement contente, mais en même temps, tellement parsemée.
Oui, il y a quelque chose
de
qui...
stress.
Oui.
À un moment donné, on dit est-ce que je fais correctement la bonne chose? Est-ce que je mange ça, c'est-tu correct? Mm-hmm. OK, je vais faire attention, je ne serai pas trop longtemps debout, je vais m'asseoir. C'est comme mm-hmm. si tout est avec amplification, tu sais, parce qu'on veut s'assurer que c'est correct.
C'est ça. J'imagine que tu étais dans la suranalyse de tout ce que tu faisais, tout au complet.
C'est tellement bien dit, Chantelle, tu m'enlèves les mots de la bouche. Ouais. C'est exactement ça.
Ouais.
C'est exactement ça. Et cette fois-là, je suis suivie quasiment là, au début de semaine en semaine, okay, avec les échographies, s'assurer que le bébé va bien et tout ça. Alors là, je me rends au cap du 3 mois. Hey, wow.
Et là, tu peux l'annoncer à ton entourage.
3 mois. Mais je dépasse le 13 semaines. Là. Okay. Là, je suis 14, 15 semaines. Ça va bien. Ouais. Je me rends à la clarté nucale. Là, le bébé va bien. Je le vois évoluer. J'entends son cœur battre. Puis là, je l'entends. Puis je suis comme, oh my God, j'ai tout le temps les yeux pleins d'eau. Puis, mon Dieu, est-ce que ce serait mon tour? Et je crois vraiment que c'est mon tour à moi. Mm-hmm. Alors, avec tous les deuils que j'ai eus, je dis, bien, maintenant, j'y ai droit. C'est mon tour. Et là, finalement, le 4 mois, on est à Noël. Ma famille prend ma bédine, prend des photos. Et là, tout le long, je suis toujours en train de prendre des photos. Mon chum prend des photos de moi, 3 mois, 4 mois. Et là, à 5 mois, j'ai l'autre échographie où ce qu'on s'assure que là, tu sais, on prend toutes les mesures, le cerveau, les organes, les pieds, mm-hmm, pieds mm-hmm, à la tête, tout
toutes
ça.
Les étapes de... Ouais.
Toutes les étapes normales, tu sais, pour la suite de la grossesse.
Puis j'imagine aussi, puis c'est sûr qu'on est tout emballé hein, quand on voit le bébé se former, Dieu, mais toi, tu devais apprécier, être en gratitude à chaque étape totale.
Ben oui, puis on venait de s'acheter une maison en plus, fait qu'à un moment donné...
C'est comme si tout était aligné.
Ben oui, puis je m'en rappelle très bien, quand on a acheté la maison, à un moment donné, on est allé devant la maison, puis j'étais enceinte, puis je me suis mis à pleurer dans la voiture avec mon chum, puis je disais, bé, enfin, c'est mon tour, je peux pas rien demander de plus. J'ai un chum qui m'aime, une belle maison qui nous attend, un bébé qui est en route. C'est le plus beau bonheur que je peux avoir dans la vie. Enfin, j'ai réalisé ma vie. Je me disais ça. Et là, pour revenir, 5 mois, donc, tout l'examen est beau. Et je me rappelle, quand j'ai passé le test gynécologique, je ne savais pas encore si c'était un petit gars ou une petite fille. Et là, je disais, est-ce que je peux savoir? Tu sais, tellement curieuse comme je suis.
Oui,
est-ce que c'est un petit gars? Est-ce que c'est une petite fille? Bien, madame, vous ne le savez pas encore? Non, je ne sais pas encore. Et là, finalement, on me dit, bien, c'est un petit gars. Là, je suis comme, oh my God, un petit gars. Et là, on savait déjà comment il allait s'appeler. Il s'appelait Gabriel.
OK. Ah, Gabriel.
Gabriel.
L'ange Gabriel.
Exactement. Mmh. Et là, je sors. Et là, je regarde mon chum pleurant. Je dis, amour. Enfin, on va l'avoir, cet enfant-là. Fait que j'étais comme, wow, tu sais, les yeux pleins d'eau, tellement que, tu sais, le sentiment qui peut t'habiter à l'intérieur. Ouais.
Là, tu avais le sentiment d'accomplissement à ce moment-là, de plénitude, puis la réussite aussi, en quelque part, parce que malheureusement, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui associent ça comme une non-réussite, alors que c'est pas ça. T'sais, tu comprends ce que je veux dire? Tu as dû passer par toute cette. Tu dirais, là, j'ai réussi, il y a quelque chose. Puis,
exactement. Ouais.
Et puis là, ton conjoint, en fait, aussi, devait être super emballé.
Ah oui, oui, on était fous, tellement on était heureux, on était contents, on était joyeux. Et le 1er février, c'est l'anniversaire à mon conjoint. Alors, on va manger au restaurant, à la Tomate Blanche, au quartier du 30. Mm. Et je me promène avec ma bédine, je me sens belle, petite robe vraiment serrée. Mm. Puis, tu sais, on est comme une fierté de montrer notre bédine.
Oui,
on la sort, tu sais.
Oui, oui.
Là, c'est maintenant la mode.
Avant, c'était quasiment pas des salopettes, là, mais des petites salopettes de congé de maternité. Pas de congé de maternité, de maternité. Puis de plus en plus, maintenant, les femmes, c'est des robes moulantes pour qu'on voit. Et je trouve que ça met bien en évidence puis en valeur. peur, le bébé qui s'en vient. Donc là, tu étais toute sur ton 36 avec ton amoureux.
Oui, vraiment, puis avec un couple d'amis, tout ça. Alors là, au souper, je prends un petit verre de vin, mais j'ai un petit peu un sentiment de culpabilité parce que je prends un petit peu du vin. Et là, au dessert, je prends un dessert au chocolat avec du kirsch. Mais là, je dis ça parce que je vais vous dire où ce que ça m'a amené après. Le kirsch, soir, c'est comme une petite boisson que tu mets
boisson
dans
un dessert
forêt noire, dans un dessert. Mm-hmm. Et on revient à la maison, mon conjoint décide d'aller jouer au Dominion, un jeu de société avec son ami, rentre super tard. Moi, je dors super bien, mais 7-8 heures du matin, je me lève, je me sens pas bien. On avait Justin, alors il fallait la reporter chez sa mère. Et nous, on partait à Las Vegas, notre dernier voyage en amoureux, avant qu'on accueille Gabriel. Donc, on est le 2 février. Et là, je me sens pas bien. Je me sens vraiment pas bien. J'ai des contractions, j'ai mal, je comprends pas ce qui se passe. J'appelle mon amie Marie-Lou, elle dit, tu sais, des fois, l'utérus grossit, ça peut donner, tu sais, ça peut te faire des crampes, ça peut... Mm-hmm. Fait que je me dis, OK, ça peut être normal, tu sais. Et là, finalement, j'attends un petit peu, il est rendu 10 heures, mon chum va porter Justin. Je m'en vais prendre une douche, puis je parle avec Gabriel. Puis là, je dis, Gabriel, qu'est-ce qu'il y a, mon homme? Ça va pas aujourd'hui, mon petit homme?
Tu parles à ton fœtus, ton bébé. Comme
fœtus,
on parle à notre bébé,
à
on parle tous les jours, on leur chante des chansons.
Jours,
on fait toutes sortes de...
Fait que je flatte la bédine, puis je dis, inquiète-toi pas, je suis là, maman t'aime, papa t'aime, on a hâte de te voir. Puis tu sais, j'essaie d'être la plus rassurante que pas, tu sais, mais pas juste envers lui, mais envers moi. Et là, finalement, j'appelle le 811 parce que ça passe pas. Et elle me dit, écoutez, allez prendre un bain chaud. Et puis, si dans une demi-heure, couchez-vous sur le côté droit, et si dans une demi-heure, ça ne passe pas, vous vous présentez au pavillon de naissance.
OK.
Donc, rendu... alors, ça ne passe pas, évidemment, et j'appelle mon conjoint. Je dis, là, j'ai pas un bon feeling. Puis on a un gut feeling, les femmes, hein, qui nous habitent.
Ouais. Mm-hmm.
Alors, je dis, on s'en va au pavillon de naissance. Donc, arrivé au pavillon de naissance, on m'emmène d'urgence dans une salle où on fait une échographie. Et j'avais perdu un petit peu de liquide amniotique, mais il y avait vraiment rien de catastrophique pour l'instant.
Tu n'avais pas crevé les os?
Non,
pas,
exactement. Puis il me dit, peut-être que tu as fait une infection urinaire ou quelque chose comme ça. On me branche, on met le moniteur, le cœur du bébé bat, et là, je supplie le bon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, Gabriel, il est là, puis nanana. Pis...
Parce que là, tu entendais le cœur.
Exactement. Fait que tout était correct. Il y avait juste un petit peu de perte de liquide amniotique, mais
c'était
correct.
Puis là, ça faisait combien de temps, là, à ce moment-là? Que
j'étais à 21 semaines.
21 semaines, OK.
Exactement. Et là, finalement, la médecin s'en va parce qu'elle a d'autres patientes. Et là, je me mets à uriner. Mais je ne comprends pas pourquoi j'urine. Et là, mon cerveau ne catche pas parce que c'est pas normal d'uriner devant les gens. Mais en même temps, moi, je pense pas que je suis en train de crever mes os parce que je ne catche pas. Je me suis jamais rendue là, fait que je comprends pas. Puis aussi, ton cerveau, il est dans le déni.
Mm-hmm. Puis il y a aussi peut-être que tu pensais que parce que tu étais peut-être super stressée que là, peut-être que...
Exact. Exactement.
Tu n'es pas médecin, donc là, tu penses, tu dis peut-être que...
C'est ça, exactement. Okay. Et la médecin revient dans la chambre et elle lève la couverte. Et là, elle me regarde. Elle regarde les assistantes, les infirmières et dit, ça fait combien de temps que Mélanie perd du sang comme ça? Bien là, je sais pas, quelques instants... Là, elle me regarde, me dit, là, Mélanie, il reste 5 % de chances de vie à ton enfant, mais là, il faut sauver la maman. Est-ce que tu acceptes les transfusions de sang? J'ai fait, oui, j'accepte les transfusions de sang. La seule chose que je demande, c'est sauver mon enfant. Moi, je peux partir, mais lui, il ne peut pas partir. Fait que moi, j'étais prête à laisser
Mélanie,
ma place pour Gabriel.
Oh, mon Dieu!
Alors, d'urgence, on m'emmène au bloc opératoire et je ne veux pas qu'on m'endorme parce que je le sais au réveil, il ne sera plus là dans mon ventre. Puis je veux pas qu'on m'endorme.
Mélanie, j'aimerais ça, pas être obligée de te couper au moment où ce que c'est le plus important que tu vas partager. On doit s'en aller en musique.
Ben
je
oui.
préfère y aller là que
ben
t'es
oui.
obligée de te couper quand ça sera pas
ben non,
évident.
Ben non, puis on va pouvoir se ramener
exact,
aussi dans l'émotion.
Exact. Alors, parce que c'est pas évident, là, elle me raconte ça, puis on a les yeux les deux, c'est pas facile. Donc, écoutez, on s'en va quelques minutes en pause et on vous revient.
Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When moment live, give me what you alone can give, a kiss to build a dream
Voilà, vous êtes avec Chantal Giraudet, animatrice au cœur de la famille. Je vous rappelle, pour ceux qui viennent de se connecter, on est en onde avec une invitée qui a vécu un deuil, une épreuve en fait, l'épreuve d'un deuil, trois, d'épreuves pour le fœtus. En fait, le bébé, j'en perds mes mots tellement que je trouve que c'est des fois touchant, mais le bébé qui est en cours de gestation, donc pas facile pour notre invitée. Et moi, je la trouve, comme je disais en début d'émission, vraiment courageuse. Je l'entends, puis je suis comme, je vous dis, toutes des malaises, des profonds, les émotions m'animent, comme vous pouvez voir, j'en perds même mes mots. Écoutez, alors je reviens à Mélanie. Mélanie, tu étais dans l'explication de ta troisième grossesse. Et naturellement, si on remet un petit peu en contexte les gens, il y a eu une fausse couche au début, une première, une deuxième. Là, tu es en train de nous expliquer la troisième. Oui. Et là, tu es à 21 semaines.
Exactement.
Et puis là, naturellement, si tu fais un petit peu une petite boucle, veux-tu revenir dans les dernières secondes pour qu'on puisse te remettre?
Problème.
Merci beaucoup.
Je me présente au pavillon des naissances parce que passé 20 semaines, on doit se présenter au pavillon des naissances. Et en arrivant, vu que j'avais des contractions, on regarde si le cœur du bébé bat toujours. Et effectivement, le Gabriel, son cœur battait toujours. Donc, ils viennent à te plugger un moniteur, voir les battements du cœur et tout ça. J'avais perdu un petit peu de liquide amniotique, mais il n'y avait rien encore de catastrophique. Donc, par la suite, la médecin quitte pour prendre soin de d'autres patientes. Et je me mets à uriner et je ne comprenais pas pourquoi j'urinais.
Puis là, c'est ça qu'on disait juste avant qu'on soit en pause.
Exact.
Là, toi, tu te dis, bien, peut-être c'est normal, peut-être c'est le stress, peut-être que ça a relâché. Parce qu'on sait, des fois, quand on a le bébé qui pousse sa vessie, tu sais, c'est...
Ça peut, exactement. Mm-hmm. Et finalement, la médecin rentre à nouveau dans la pièce et lève la couverte. Et parce que je lui explique qu'est-ce qui se passe, elle lève la couverte et là, elle voit que je suis en hémorragie. Donc, elle me dit, là, Mélanie, il y a 5 % de chances que ton bébé vive et là, il faut sauver la maman. Il y a un danger pour la maman. Donc, est-ce que tu acceptes les transfusions de sang? J'ai dit oui, j'accepte les transfusions de sang, mais la seule chose que je vous demande, c'est sauver mon enfant. Moi, c'est pas grave. J'étais prête à laisser ma vie.
Mon Dieu.
Et,
c'est un choix, c'est ben, déchirant.
Mon conjoint, il est là, lui, c'est peut qu'il perde les deux.
Mon Dieu.
Il est dans tous ses états aussi.
Ouais.
Là. Il y a même une infirmière qui l'accompagne.
Oui, oui, tout à fait.
Donc, je m'en vais au bloc opératoire. Et puis, quand il essayait de m'endormir, je ne voulais pas m'endormir. Parce que je savais qu'en m'endormant, qu'en mon réveil, l'enfant ne serait plus là. Je n'étais pas prête à ça. Je ne voulais pas m'endormir. Ce n'était pas question que je m'endorme. Je ne voulais pas que ça allait là. Et là, finalement, on s'entend, ils te mettent ça, 1, 2, 3, t'es parti.
Oui, oui.
Et finalement, quand que je me suis réveillée, j'étais attachée au lit. J'étais complètement hystérique à demander où était mon enfant. C'est, ton cerveau n'est plus là. T'es plus là.
Non.
T'es vraiment plus là, t'es en choc. Et puis, je demande à voir Gabriel. Où est mon enfant? Donnez-moi mon enfant. Où est mon enfant? Je crie, je pleure, je suis dans tous mes états. Et là, même finalement, ma médecin, Andréane, elle vient voir, me montrer vite une photo de Gabriel pour que je me calme. Et là, tranquillement, je reprends mes esprits, mais je ne suis plus là. Mon corps est inanimé.
Ah non.
Mon âme n'est plus là.
Ouais.
Je suis comme dans un autre monde, une autre planète. Je suis livide. Je suis plus là. Je suis comme déconnectée.
Ouais.
Et là, par la suite, ce qui est le plus difficile, c'est que on t'amène à la chambre, mais là, tu entends des femmes pousser, des cris de bébé. Même si on est debout à te mettre dans une chambre un peu plus loin, tu as quand même conscience de tout ça autour. Alors, tu sais qu'il y a des femmes qui ont la chance d'avoir leur enfant, mais toi, tu viens de perdre le tien. On est dans une chambre, je pleure, je me réveille pour pleurer, je marche, j'ai mal. Ils viennent arriver dans ta chambre. Qu'est-ce qu'on fait du corps de ton enfant? Faut disposer du corps de ton enfant. Tu signes l'acte de naissance, l'acte de décès. Ça dépasse l'entendement, là.
Et là, tu n'es pas dans cet état-là du tout, complètement. Comme tu dis, tu es dans un autre, tu es dans l'espace, tu es loin.
Tu es tout à fait loin.
Tu es plus sur la planète Terre. Là,
attends, là, laisse-moi gérer mon émotion. Comment je fais pour disposer du corps? Est-ce que je suis en mesure d'appeler un salon funéraire pour disposer du corps de mon enfant? Non, je ne suis pas là.
Non.
Je ne suis pas là. Et une chance qu'on a un couple d'amis qui a pris charge de ça parce que nous, on n'était pas capables. Donc, c'est un de nos couples d'amis qui s'est occupé de prendre un rendez-vous pour disposer du corps et incinérer Gabriel.
Mais si on revient à cette étape-là, quand tu es dans la chambre et que tu entends, toi, tu es dans le corridor et tu entends les bébés, tout ça, là, à ce moment-là, ça devait être extrêmement difficile pour toi d'entendre ça. Puis là, tu reviens à ta chambre. Puis là, mais ça, c'est quand ils sont arrivés avec tout ce que tu avais à remplir, là, ça, c'était...
Moi, je n'ai pas été capable de remplir les papiers, c'est
mais
mon
ça,
conjoint.
C'était dans les minutes qui suivent l'annonce?
C'est le lendemain, je te dirais, le samedi.
OK, le lendemain, OK, parce que là, moi, j'ai un contexte qui t'arrive avec ça, là, je ne comprends pas.
Mais honnêtement, okay, je ne peux même pas dire quelle heure, parce que mon corps n'est plus là, je suis déconnectée.
Mais déjà, même le lendemain, tu n'es pas prête non plus, tu es encore ailleurs.
C'est ça, exactement. Donc, j'ai été 2 nuits à l'hôpital et la 3e journée à la maison. Et là, c'est ça, mon conjoint remplit les papiers, tout ça. Mais là, quand on sort, on arrive à la maison. Puis je ne sais pas si vous avez déjà entendu, justement, tu sais, quand on arrive à la maison, tous les petits sons de la maison, le frigidaire,
le ventilateur,
c'est comme si on est là, mais on n'est pas là. C'est comme si tout flotte autour.
Ah oui, ça, c'est un choc. Ça, c'est tellement synonyme d'un choc post-traumatique. Là, tu es dans un choc. À ce moment-là, tu es dans un choc post-traumatique. C'est comme si tout arrêtait tranquillement.
Exactement.
Et que tu devenais dans l'hyper-vigilance, hyper-conscience.
C'est spécial.
Mais en même temps, tu es ailleurs.
Exactement. Puis on se regarde, moi, mon conjoint, puis on pleure, puis on se serre dans nos bras, puis ça dépasse l'entendement. Puis pour les femmes qui vont vivre ça après 20 semaines de grossesse, parce que je l'explique parce que c'est après. C'est soit vous pouvez enterrer votre enfant à une place dédiée, en un cimetière. Ça peut se trouver pour aller se recueillir. Ou sinon, vous pouvez faire incinérer votre enfant puis avoir l'urne à la maison ou à une place que vous voulez. C'est à votre guise. Nous, on a décidé de l'avoir à la maison, là, dans une pièce maîtresse de la maison, ce que les gens ne s'en aperçoivent pas, sur une statue qui est complètement en paix, qui a les mains jointes. On l'a mis entre les mains. Et c'est juste avant notre chambre à coucher. Donc, à tous les soirs, après 5 ans, c'est toujours « Bonne nuit, mon gars, je t'aime, je pense à toi. Oh. » Il n'y a pas une journée.
Regarde, écoute, on est avec toi.
Je suis désolée.
Attends. Non, mais ne sois pas désolée, Mélanie. Mon Dieu, c'est tellement tout à fait normal. Tellement, tellement. Regarde, j'ai des Kleenex ici.
Que je ne passe pas à lui.
Regarde, je te donne ça ici. Prends ton temps. Prends ton temps.
Désolée pour les gens qui nous écoutent.
Non, Mélanie, c'est tout à fait normal. Tout à fait compréhensible.
Même après 5 ans, ça fait revivre des émotions. Oui,
tout à fait. Tu sais, tu as ton verre d'eau ici, si tu veux, à côté de toi.
Merci.
Puis, dans le fond, je peux prendre la parole pour te donner le temps aussi. Tu sais, je sais que tu es spirituelle aussi beaucoup. Donc, ça t'a permis de t'accrocher parce que tu me disais hors d'onde que tu as eu des étapes, mais que tu sais, là maintenant, tu es, ce soir, c'est sûr, avec tout le stress d'émission aussi, puis de n'en parler, puis tout ça vient rejaillir les émotions que tu vis et tout ça. Puis en même temps, les auditeurs sont très compréhensifs, j'en suis certaine. Et il y a d'autres femmes aussi qui t'écoutent présentement, qui ont peut-être vécu cette étape-là aussi, ou ces étapes-là que tu as vécues. Mais le fait que tu aies cette pièce-là dans la maison, tu sens aussi qu'il y a une présence, un petit ange, j'imagine.
Oui, il est toujours là. Oui, toujours, exact. Toujours. Même avant de commencer l'émission, je disais, OK, accompagne-moi pour que les bons mots sortent de ma bouche, puis que je puisse passer un message pour aider. Si je peux juste aider une personne ce soir, une femme.
Oui.
Ma mission de la journée va être accomplie.
C'est tellement bien dit. Exactement.
C'est vraiment ça que j'avais en tête ce soir en venant ici.
Oui, puis l'émission va être disponible aussi parce que si les gens veulent aller voir sur Spotify ou podcast, parce qu'ils connaissent quelqu'un qui a passé par des étapes puis qui ont besoin de comprendre aussi que je ne suis pas la seule, parce que des fois, ce n'est pas toujours évident d'en parler à son entourage, parce que les gens aussi sont éprouvés. Il y a des fois des femmes qui n'osent pas trop
malaise,
en parler.
Il y a un malaise.
Que ça rend, ça nous rend, même moi, là, comme je te dis, là, je me rendais ici, puis je me disais, oh mon Dieu, ce n'est pas toujours évident. Là. Mais tu es forte, Mélanie, vraiment, tu es très forte, très forte. Puis, alors, tu nous disais que tu avais cette pièce-là de Gabriel qui est dans ta maison, qui va rester là. Il est avec nous ce soir. Et si je peux faire le pouce, on va aller en pause. Et après ça, on fera du pouce. On parlera de comment toi, après, comment tu as vécu cette étape-là et comment ton conjoint Jean-Sébastien a vécu ça, parce qu'il y a toute l'étape après, toutes les étapes du deuil. Alors, tu pourras nous en parler en revenant. Puis en même temps, tu pourras boire de l'eau. Puis on pourra essayer de... Parfait. Alors, on y va.
Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 $ en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
Intention Inc., c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. À chaque semaine, mon collègue François Morin et moi-même, Sophie Zito, allons à la rencontre d'entrepreneurs brillants et avant-gardistes du monde des affaires et de l'économie sociale pour connaître leur histoire, leur motivation et leur passion. Si vous êtes à la recherche d'une étincelle pour passer à l'action, soyez à l'écoute d'Intention Inc. tous les jeudis de midi à 13h.
Bonjour à toutes et à tous, ici Charline Caro. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal. Actualité, culture, entrevue, vous saurez tout sur Montréal. Alors à bientôt dans Les Aurores Montréal.
Ici Marc Levasseur. Je vous invite à faire la connaissance de musiciens et de musiciennes passionnées avec les héritiers et les héritières de Django Reinhardt qui nous dévoilent leur vision du monde telle qu'ils et qu'elles l'expriment à travers leurs instruments. Cette musique, le jazz malouche, on l'entend un peu partout à Montréal et on vous propose de la découvrir à coups d'interviews et de performances en direct. Django et compagnie, c'est ce mercredi à 20h.
Alors voilà, on va revenir avec Mélanie, qui était naturellement en train de vivre des émotions qui sont tout à fait normales. Et vous savez, Mélanie me dit, oh, je m'excuse. J'ai dit non, c'est tout à fait normal, tout à fait normal. Et même que je m'en venais, puis j'ai même partagé tantôt avant l'émission, j'ai dit, j'espère que je ne me mettrai pas à pleurer. Là, c'est moi qui pose les questions. Puis en même temps, je me suis dit, bien, si jamais il y a des émotions qui sortent, écoutez, c'est tout à fait naturel. On est des êtres humains, après tout. Et l'émission n'est pas finie. Et comme je vous dis, même tantôt, elle me parlait, puis j'avais les yeux un petit peu vitreux parce que j'ai beaucoup d'empathie pour ce qu'elle a, l'épreuve, dans le fond, pour laquelle... c'est encore quand même... ça reste une épreuve d'une vie, hein, on s'entend.
Tu guéris jamais de ça. Mm-hmm. Jamais, jamais. Tu apprends à vivre avec ça.
Tu apprends à avoir des outils.
Exact.
Puis tu vas pouvoir nous parler aussi du support que tu as reçu là, tout au long. Là. En fait, là, ça fait 5 ans, comme je rappelle aux gens. Là. Donc, Mélanie, à travers cette épreuve, tu vois, il y a des gens qui te disent bonjour sur la rue.
Oui.
Hey, c'est-tu assez beau?
Oui.
Ça veut dire que les gens sont avec toi, là, parce qu'ils t'entendent ici sur la rue.
Ah, je savais pas.
Oui, c'est pour ça qu'ils disent. Oui, c'est parce qu'ils t'écoutent.
Ah, bien, je savais pas partout.
Alors, oui, effectivement, il y a des micros extérieurs sur la rue. Donc, quand les gens passent, il y en a qui restent pour écouter l'émission et puis ils sont dans la fenêtre et c'est pour ça que
les gens... OK, fait que là, tu vois, suis surprise dans mon visage. Je savais pas du tout.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Alors, c'est très vrai, là. Très... Mélanie, face à cette épreuve... qu'il l'est encore et qu'on ne s'en remet jamais de ce type de choses-là. J'aimerais que tu nous parles, peut-être pas les premières semaines, parce qu'on sait que c'est tout à fait normal, mais tu peux nous parler aussi des premières semaines, mais les mois qui ont suivi, comment tu as passé au travers? En fait, ça peut être aussi les jours qui ont suivi, les semaines, les mois. Comment ça s'est passé? Et aussi, je trouve que dans ce processus-là, il faut penser aux hommes. Parce que des fois, les hommes, ils essaient de beaucoup supporter leur conjointe parce qu'on s'entend que, chez la femme, c'est la gestation, c'est d'avoir le bébé dans son ventre. Il y a tout le sentiment de culpabilité. Peut-être, je ne sais pas si tu es animée ou pas, je ne veux pas présumer, je suis dans la perception tout là, mais... Pour Jean-François aussi, ça devait être quelque chose d'extrême. Jean-Sébastien, je m'excuse, Jean-Sébastien, ça devait être quelque chose de très difficile aussi à vivre. Il va être là pour sa conjointe, mais lui aussi, il vit le deuil. Donc, raconte-nous comment, chez toi et chez Jean-Sébastien, ça s'est vécu.
Tout d'abord, j'aimerais reconnaître les hommes ce soir parce que souvent, ils sont oubliés. Dans ce processus-là. Souvent, on va donner nos condoléances à la femme, mais on oublie souvent l'homme. L'homme aussi a perdu son enfant, a perdu son bébé. Et aussi, ça prend beaucoup de force pour accompagner la femme dans ce deuil-là. Et chaque personne le vit différemment. Chaque homme le vit différemment. Chaque femme le vit différemment. Les enfants aussi.
Oui, et puis c'est ça que je voulais aussi dire, c'est que je sais qu'il y en a aussi qui vivent, c'est différent peut-être de toi et Jean-Sébastien, mais il y a aussi que des fois, il y a des mamans qui vivent la même épreuve que toi, qui sont déjà mamans et qui ont annoncé aux plus jeunes ou à leurs enfants qu'ils étaient pour avoir un frère, une sœur.
Oui.
Et là, il y a la maman, le papa et les enfants qui vivent le deuil.
Exact.
Et des fois, ils n'ont pas nécessairement l'âge pour comprendre. Donc, toute la famille est en deuil. Et on a aussi l'addition aussi des grands-parents parce que Jean-Sébastien a des parents, toi, tu as des parents.
Oui.
Tu as une sœur, je crois, Mélanie.
Un frère.
Tu as un frère. Puis lui, Jean-Sébastien, il y a...
Lui, il a un fils.
OK, mais Justin. En fait, oui, il a son fils, mais y a-tu un frère, une sœur?
Non.
Il est enfant unique, OK. Mais tous ces gens-là qui sont autour, ils vivent aussi tout ça. Puis je vais juste faire une petite parenthèse aussi, Mélanie. Est-ce que tu perçois, est-ce que tu comprends que des fois, les gens, ils vont voir la femme, c'est parce qu'ils sont portés à aller vers la maman.
C'est une culture qui s'est appelée depuis des années, c'est comme ça.
Mais des fois, c'est des fois, c'est la nervosité. Des fois, les gens, ils savent plus comment se comporter dans des situations qui sont tellement douloureuses et qui sont empathiques et qui ont beaucoup de compassion, puis ils savent plus comment se comporter. Puis des fois, ça peut arriver qu'il y a de maladresse, hein, des fois.
Juste rien dire.
Mm-hmm.
Juste ne rien dire.
Mm-hmm.
Juste de faire un câlin, d'être à l'écoute, de se faire prendre dans nos bras. Donc, juste ça, je pense, c'est ce qui fait la différence. Aussi, quand on perd un enfant, préparer des petits plats cuisinés déjà, parce qu'on n'est plus capable de faire à manger, on n'est plus capable de fonctionner.
Mm-hmm.
Fait que des fois, de faire des petits plats cuisinés, ça fait du bien. On n'a pas à se casser la tête pour faire à manger.
Mm-hmm.
Donc...
Mais si on y va en rétrospective, là, supposons que tu apprends la nouvelle et tout ça, Jean-Sébastien et toi, là, dans les jours qui ont suivi, là, si on oublie là, tout ce qui est le côté urne et tout ça, comment ça s'est passé quand tu es revenu à la maison?
Ah, mon Dieu, enfin, face à cette réalité-là.
Okay.
Pour vrai, on a ouvert une bonne bouteille de vin, on a pris un verre, on a pleuré, on a ri, un mix d'émotions.
Mm-hmm.
Après ça, tu es en mode survie. Ta batterie est en mode survie pendant un certain temps. Le temps que le choc passe, aller jusqu'à la prochaine étape, qui est le déni, parce qu'au début, mm-hmm. on ne veut pas l'accepter, on ne comprend pas mm-hmm. ce qui s'est passé. Là, je parle de mon dessert au kirsch, hein? C'est un peu plus tôt, vous vous rappelez.
Mm-hmm.
Et là, on se sent coupable parce que j'ai pris un verre de vin.
Puis toi, t'en prenais pas, t'en avais pas pris du tout de ta grossesse.
Presque pas, tu sais, à quelques mm-hmm. occasions rares à Noël, un petit verre de vin, mais j'ai même pas fini mon verre de vin, tu sais.
Mm-hmm.
Et là, on se sent coupable. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? J'ai-tu soulevé quelque chose de trop lourd? C'est-tu à cause du kirsch qu'il y avait dans mon dessert? C'est-tu à cause de la petite coupe de vin? J'ai peut-être pas assez été assis? Tout te passe par la tête. Tu vires sur le top, là. Tu te dis, qu'est-ce que mm-hmm. j'ai fait de pas correct?
Mm-hmm.
Fait que c'est sûr que tu t'en vas là dans ta tête, c'est sûr, 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 puis c'est normal. Fait que tu viens à tout en rétrospective de qu'est-ce qui s'est passé, puis là, tu sais, j'ai-tu mangé, mettons, un poisson cru, j'ai-tu mangé quelque chose qui n'était pas assez cuit, fait que vraiment tout ça. Puis après un certain temps, c'est là où, c'est que pour la première fois, quand on connaît la nuit noire de l'âme et qu'on touche le fond du baril, c'est là où on met un genou à terre, puis on est dans la résignation. Mm-hmm. Puis on se dit, je peux pas contrôler l'incontrôlable. C'est arrivé.
Mm-hmm. C'est comme tu t'es dit, là, la vie a fait que le message est « oh ».
C'est ça. C'est arrivé. C'est comme ça. Puis au mois d'août, nous, on a su que mon conjoint m'a dit que finalement, on n'en aurait plus d'enfants, qu'il m'avait dit trois fois oui, mais qu'il était rendu assez âgé. Qu'à l'âge qu'il était rendu, il était rendu comme un peu trop tard. Puis il m'avait déjà dit oui trois fois.
Oui, oui, déjà, c'est puis, très, très bien.
Exactement. Oui, oui, puis là, il y a un questionnement dans le couple. Est-ce que je reste avec cet individu-là? Est-ce que je quitte cet individu-là pour avoir la chance d'avoir un enfant? Il y a vraiment plein de questions qui se passent au sein de ce couple.
À ce moment-là, tu étais là, tu étais en train de dire
exactement. Là... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est à tout prix? Mais en même temps, ça a été tellement difficile de trouver l'homme de ma vie. Ça m'a pris 10 ans.
Oui.
Alors, c'est sûr que je ne veux pas passer à côté de cet homme-là.
Mm-hmm.
Je l'ai enfin trouvé.
Oui.
Alors, j'ai fait le choix d'accepter de ne pas être maman. Et ça, ça a été un autre deuil. Parce que dans un cas échéant où tu n'as pas d'enfant, ben tu as le deuil de la femme, tu as le deuil du plan de vie, tu as le deuil de la maternité. Alors, il y a plein de deuils qui sont rattachés à ça. Et là, il faut que tu te redéfinisses en tant que femme. C'est qui ça, Mélanie Fichaud, maintenant?
Ouais.
Je la connaissais plus. C'était là, plus celle que j'avais...
C'est comme, tu avais l'impression de perdre tes repères.
Perdre mes repères.
Mm-hmm.
De me dire, maintenant, je m'en vais où? Je vais faire quoi? Je suis qui? Il y a tout un questionnement. Donc, il y a une rétrospection. Il y a une capacité d'introspection qu'il faut que tu fasses. Mm-hmm. Il y a un travail qu'il faut que tu fasses sur toi.
Mm-hmm.
Ça m'a pris du temps. Puis à travers ça, il y a aussi la dépression. Mm-hmm. Ça m'a pris du temps avant de m'en apercevoir que j'étais en dépression.
Oui, parce que là, tu étais au début dans le déni, ce qui est, dans le fond, une des 7 étapes de la phase du deuil en général. Là.
Exactement.
Là, tu étais en déni. Là, c'est quand tu n'étais plus en déni que tu as réalisé que là, c'est vrai. Là, je me rends compte que...
J'en aurais pas d'enfant.
C'est ça. Là,
exact.
Exact.
Et là, c'est là que j'ai vraiment tombé dans une dépression. Et c'est là que j'ai eu un diagnostic d'un médecin, puis que je ne savais pas. T'sais, moi, je suis tellement une fille forte. Hein? Ouais, let's go, puis je suis capable d'en prendre, puis oh, tu sais, mm-hmm. emmenez-en, puis je suis forte.
Ouais, ouais.
J'avais mis mon armure, mais là, j'ai plus d'armure.
Mm-hmm.
Et je fais une dépression majeure, et je sais pas c'est quoi ça mange en hiver, une dépression majeure. Mm-hmm. Mais la seule chose que je sais, c'est que je suis plus capable de fonctionner en société. Je suis mm-hmm. plus capable de sortir. Je suis plus capable de voir personne. Je suis plus capable de me laver. Je suis plus capable de prendre soin de moi. Tout ça était tellement un fardeau que je ne savais plus quoi faire. Puis mon chum, dans tout l'amour qu'il me porte, m'acceptait telle que j'étais.
C'est une grande preuve d'amour.
Une grande preuve d'amour.
Oui, vraiment.
Et j'ai été, à part la suite, on m'a donné le citalopram, qui est un médicament pour aider à la dépression. Et puis, j'ai été chercher de l'aide pour me rebâtir, me reconstruire, puis de rebâtir mes fondements.
Oui.
Parce que mes fondements n'étaient plus là.
Exact.
Exact. Et ça a été une étape par étape.
Puis un jour à la fois.
Un jour à la fois. Oui. Puis au début, c'est pas un jour à la fois, c'est une minute à la fois.
Mm-hmm.
Puis c'est bien correct que ça soit une minute à la fois.
Oui, oui.
Puis après ça, ça va être une demi-heure, puis une heure, puis ça va être petit peu par petit peu. Puis
ouais.
L'autre chose que je voudrais vraiment dire aux femmes, c'est aux couples, donner du temps au temps. Il n'y a rien d'autre qui peut arranger que le temps. Malheureusement, c'est ça. Puis ça va être important de faire correctement les étapes du deuil, parce que c'est sûr que vous allez vous promener dans les étapes du deuil.
Mm-hmm.
Vous pouvez être autant dans la résignation, puis retomber dans le déni, puis dans le choc.
Mm-hmm.
Puis peut-être encore être dans l'acceptation, la reconstruction.
C'est de respecter son processus de
exactement.
Deuil. Comme je disais, et que tu as ajouté aussi plus exact. Tard, c'est que tout est une question de contexte, une question de contexte qui est très unique.
Oui.
Parce que, bon, dans ton cas, c'était ici, tu étais à ta troisième, puis il y en a d'autres qui sont leur premier, il y en a ces deux, il y en a ces d'autres choses, d'autres histoires. Est-ce qu'ils sont entourés, moins entourés? Tu sais, c'est tout ça. Toi, tu as décidé aussi, puis tu as pris la bonne décision, Mélanie, tu es allée chercher de l'aide.
Oui.
Parce que tu peux pas, parce que ton conjoint, même s'il a été là, puis a été présent, lui aussi, il vit. Donc, ça prend quelqu'un de neutre qui est là pour aller. Toutiller, tout
mais,
ça, puis c'est
mais bien. Mon conjoint, je comment je pourrais dire, je salue sa force. Deux semaines après, il travaillait, mon conjoint. Il n'y avait pas de vacances, il n'y avait pas de congé. Alors, on avait une nouvelle maison à payer aussi, hein,
ouais.
On se rappelle. On avait déménagé dans une maison.
C'est ça, exact.
C'est
comme s'il fallait qu'il revienne sur Terre, mais en même temps, il vivait le deuil.
Ben
ça
n'a
pas dû être facile aussi.
Ben
parce
non,
que
puis
il
à
veut
ce
être
jour,
fort pour toi.
Exact.
Il veut être...
Et je ça. Confirme à ce jour ouais. que le deuil de mon conjoint n'est pas fait.
Mm-hmm.
Je le sais, parce que des fois, il y a des... Excusez l'angliciste, trigger. Mm-hmm. Je ne sais pas comment le dire en français, mais...
Des éléments déclencheurs.
Des éléments déclencheurs. Et mon conjoint se met à pleurer après 5 ans dans le salon, puis je le console.
Mm-hmm.
Et je le sais que son deuil n'est pas fait.
Mm-hmm. Mais et c'est pour ça que je trouve que culturellement ou la société, puis c'est comme, je trouve qu'on s'améliore là, à ce niveau-là, mais quand même, il reste que l'homme, c'est comme s'il fallait que ça soit un battant, puis une
pourvoyeur
personne, pourvoyeur,
ouais.
qui soit là et tout ça. Là, lui, bon, il avait la maison, retourne au travail, il faut que je continue. C'est comme si, oh, la vie continue. Puis en même temps, il y a un processus, effectivement, de deuil qui est à faire et tout ça. Puis, ben c'est sûr que, tu sais, je veux dire, Jean-Sébastien pourrait aussi aller chercher de l'aide. Il n'est jamais trop tard, parce que des fois, c'est...
Non.
C'est bien, hein? C'est bien de prendre... Parce que c'est aussi de s'écouter puis prendre soin de soi. Mais je comprends comment il a réagi ton conjoint, parce que beaucoup d'hommes qui ont réagi de cette façon-là dans des situations comme ça. C'est tout à fait louable, là, qu'il y ait... Tu sais, à ce moment-là, il voulait peut-être là aussi, probablement, pour être là plus pour toi.
Ouais.
Puis il s'est peut-être oublié beaucoup dans
beaucoup.
Tout ça.
Beaucoup, beaucoup.
Puis là, ben, ça, c'est comme si le boomerang revenait.
Oui,
tu sais, vraiment
tout à fait.
Un petit peu plus, ouais. plus fort et tout ça, tu sais. Puis toi, t'as partagé le processus de deuil et tout ça. Au niveau des gestes, des attitudes, puis tu es allé chercher du support psychosocial. Est-ce que je peux me permettre de te demander quel type de support?
Oui, tout à fait. J'ai fait appel. En fait, après 5 mois de grossesse, le médecin, c'est elle qui prend charge de communiquer avec un CLSC pour communiquer avec toi pour la suite des choses.
OK.
Donc, je salue 2 personnes, Manon Lavoie et Alexandra, qui m'ont énormément aidée dans ce processus de deuil-là. Manon Lavoie qui m'a montré la voie, qui m'a vraiment beaucoup aidée pour la suite des choses. Puis par la suite, ben, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur soi, qui avait quand même du cheminement en arrière de la cravate. Donc, c'est moi qui ai été chercher par la suite du support. J'ai écrit beaucoup. J'ai écrit beaucoup à Gabriel aussi.
C'est bien. Oui,
ouais,
tout à fait.
Exact.
Ouais.
Un petit rituel hein, ouais. que j'ai pour moi puis lui.
Oui, tout à fait.
Qui nous appartient. Et puis, c'est ce qui a fait que, justement, tu sais, après 5 ans, je suis quand même capable d'en parler. J'ai fait quand même la paix avec ça.
Ouais.
Même si des fois, ça rebrasse quelques émotions,
oui, mais
c'est
tout à fait normal, tout à fait. Puis le stress de passer à la radio aussi, puis le fait que, tu sais, c'est quand même un stress de passer live, à une émission live, et venir parler d'un... d'un sujet qui est délicat, tout le temps évident. Mélanie, déjà l'émission est terminée. En une minute, quel message tu voudrais livrer à des dames, des femmes qui sont présentement dans le processus du deuil ou qui sont en train de... En fait, ça fait un petit bout de temps, mais des fois, ça aide aussi parce qu'elles aussi, peut-être qu'elles sont dans le déni, parce que ça peut durer longtemps aussi, le déni.
Oui,
là, donc,
les phases peuvent passer avec 3 mois, 4 mois, 6 mois. Ouais. En fait, le conseil que j'aurais donné, c'est d'aller chercher de l'aide au niveau d'un professionnel, bien important, de se donner qui va nous donner une compréhension autre de la situation. Parce que nous, on a un certain regard face à la situation, mais elle peut nous emmener un autre point de vue qu'on n'aurait peut-être pas pensé.
Oui, tout à fait.
La deuxième, c'est de trouver notre propre réponse qui va nous faire du bien parce que le cerveau d'un être humain est de... Le cerveau d'un être humain est de trouver une propre réponse, une vérité. Et c'est de trouver sa propre vérité.
Écoute, merci, Mélanie, de t'être présentée ce soir. Vraiment, comme je te dis, t'es super courageuse. Puis je suis très heureuse que tu sois... que t'aies passé puis que t'aies pu livrer vraiment... avec tout ton cœur et ton expérience ce soir, d'avoir parlé de cette expérience-là, comme je te dis, ça va recouper, ça va toucher d'autres personnes. Merci mille fois. Et moi, je dis, Jean-Sébastien n'est pas là, mais si je l'avais devant moi, je serais en train de dire, bien, bravo pour vous deux comme couple, parce que vous êtes restés forts dans ça. Puis tu me dis, hors d'onde, là, on est un super couple. Et vraiment, en tout cas, Jean-Sébastien, je peux te dire qu'elle t'aime fort, 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 puis que vraiment, tu as été là pour elle. Alors, vraiment, un grand merci à toi. Et l'émission est déjà... on est déjà vraiment dans les quelques secondes qui restent. Moi, je vous dis... on se retrouve la semaine prochaine, toujours mercredi prochain. Et naturellement, dans des émissions comme ça, c'est pas toujours évident parce qu'on voudrait livrer le meilleur, puis on voudrait tout dire et on aurait pu en parler aussi encore vraiment longtemps. Mais encore une fois, merci Mélanie, je t'embrasse. J'ai hâte de te faire un gros câlin. Là, les micros nous séparent, mais je m'en viens sauter l'autre bord de la table pour te faire un gros câlin. Écoutez, ici Chantal Giraudet, au cœur de la famille, au 101,5 FM. On se retrouve mercredi prochain à 19h. Et un grand merci à David Boisjoli-Moreau, notre metteur en onde. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Le 7 avril à 19h au Centre Saint-Pierre, situé au 1212 rue Panay, Montréal, les publications du Graal offriront une lecture publique ayant pour thème « La réincarnation, pourquoi vivons-nous plusieurs vies? » Des textes tirés de l'œuvre d'Abdrouchine dans la lumière de la vérité « Message du Graal » seront lus lors de cette rencontre. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, composez le 1-866-428-7001 1-866-428-7001.
Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Écho Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. Distribué gratuitement et rejoignant 200 000 lecteurs, Écho Montréal est aussi un véhicule publicitaire polyvalent en répondant efficacement aux besoins de différents annonceurs, comme dans l'immobilier ou tout simplement pour y afficher avis public ou services professionnels.
À lire ce mois-ci dans Écho Montréal. Entrevue exclusive avec Paul Saint-Pierre Plamondon, les gagnants du concours Le français, une langue qu'on aime, un système de corruption syndicale et en édito, une volte-face politicienne.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à echomontréal.com ou à composer le 514-844-2133, 514-844-2133.
Les Ours d'Orient est un programme musical artistique animé par Sami Hilal qui met en lumière les figures de la musique arabe, qu'il s'agisse de chanteurs, compositeurs, poètes et écrivains. Ce programme vise également à clarifier les formes musicales arabes et inclut une station qui parle de musiciennes et de musiciens les plus importants du monde arabe et leurs compositions. Trésor d'Orient, chaque mercredi 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5 FM, Montréal.
CIBL 101.5, Montréal.
CIBL, au cœur de la culture.